Ésaïe 40, 31, qui dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, nous devons faire un effort. L'effort que nous devons faire, nous devons tout faire. Faire en sorte que la parole que nous prêchons, la parole dans laquelle nous croyons, que cette parole devienne une réalité dans notre vie. Je n'arrêterai pas toujours aussi longtemps que je prêcherai de dire, faites attention, ne faites pas de la parole quelque chose, une chose à laquelle on s'habitue. Amen. On s'habitue à quelque chose, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de poids. Non. La parole doit s'accomplir dans ta vie. Et la parole va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Parce que la parole, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc là où la parole est prêchée, c'est pour ça que j'aime bien, nous avons le message sur les ossements desséchés. Ézéchiel 37, Dieu dit, prophétise. Et quand il a commencé à parler la parole, les ossements ont commencé à voir la chair venir. D'abord, commencer à se retrouver entre eux. La chair est venue, l'Esprit de Dieu est venu et ils sont devenus une armée puissante. Pourquoi? À cause de la parole. Alléluia. La parole change les choses. Pourquoi je dis toutes ces choses? Parce que je trouve en tant que chrétien que nous ne vivons pas la vie que Dieu a choisie ou prévu pour nous. Nous vivons en dessous de notre foi en tant que chrétien. Nous laissons le diable voler notre foi. Comment le diable vole notre foi? Nous sommes dans une société où on nous catalogue facilement. On nous donne des labels. On arrive à te faire croire que tu es quelqu'un que tu n'es pas. Alléluia. Il y a des gens ici, Dieu a envie de vous dire, qu'est-ce que tu fais là où tu es? Qui t'a mis là où tu es? Je ne t'ai jamais mis là où tu es. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais là? Si Dieu pouvait parler à certaines personnes, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais là? La personne en plus va répondre, mais c'est toi qui m'as mis, va dire, non, je ne t'ai jamais mis là. Alléluia. Fais attention à la place où tu es. Moi, je prêche un message, j'aime les messages que je prêche pour que les gens, pour qu'il y ait un changement d'abord dans la mentalité. Amen. Parce que quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous. Quand Jésus a commencé, il a dit, repentez-vous. Quand Pierre a prêché la première fois, il a dit, repentez-vous. Pourquoi? Parce que ça commence par la mentalité. Repentez-vous, ça veut dire changer de mentalité, changer de direction. Si quelqu'un ne change pas de mentalité, il ne peut pas expérimenter ce que Dieu a réservé pour lui. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui a un ami fermier à qui il est parti rendre visite. Et quand il est parti lui rendre visite, il a trouvé que son ami fermier avait un poulailler. Donc parmi la volaille, il était étonné de voir au milieu des poulets un aiglon. Et il a dit ce que Dieu est en train de dire en pensant à quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes trop sérieux, riez un peu. Alléluia. Qu'est-ce que tu... Ah, on aurait dû titrer notre enseignement. Qu'est-ce que tu fais là? Ça, c'est intéressant, ça. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Parce que l'aiglon a été éduqué avec cette mentalité qu'il est un poulet. Alléluia. Il mange comme les poulets. Les poulets mangent par terre. Et lui aussi mangeait par terre. Et cet homme-là, il a dit, non, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Donc, il a pris l'aiglon, il l'a emmené à une certaine hauteur, et puis il l'a lâché, en espérant qu'en le lâchant, il va voler. Mais il a battu des ailes et il est tombé. Et le monsieur était très triste. Il est reparti à la maison. Quelques jours après, il est revenu encore. Il a pris l'aiglon. Cette fois-ci, il l'a emmené à une hauteur un peu plus élevée. Il l'a lâché. Il a battu des ailes et il est encore tombé. Il est rentré chez lui très triste. Vous voyez, ça nous fait sourire, mais c'est comme ça que Dieu nous regarde. Dieu a envie de nous voir à la place qu'il a prévue pour nous. Mais nous-mêmes, parce que nous sommes dans une société ou parce que manque d'informations, personne ne nous a dit qui nous sommes, nous vivons avec les poulets. Et un jour, ce monsieur est revenu fâché, il a pris les glons, il l'a emmené au sommet d'une montagne cette fois-ci. Et il l'a lâché. Et quand les glons descendaient, il avait peur. Il faisait des efforts, il battait des ailes, ça ne marchait pas. Mais à un moment donné, il a commencé à planer. Et l'histoire se finit comme ça. L'aigle a disparu dans les airs. On ne l'a plus jamais retrouvé dans le poulailler. Parce que si tu sais qui tu es, tu ne reviendras jamais où tu es. Ah! Je veux répéter. Si tu sais qui tu es, tu ne reviendras jamais où tu es. Ah, je vais le dire encore. Si tu sais qui tu es, tu ne reviendras jamais où tu es. Amen. Tu es là où tu es parce que tu ne sais pas qui tu es. Et moi, j'ai la foi que demain, à la fin de notre enseignement, tu ne retourneras plus où tu es. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions comprendre que nous pouvons faire plus. S'il y a quelque chose que je déteste dans ma vie, c'est la frustration. Je n'aime pas la frustration. La frustration, c'est quand tu sais que quand tu as un besoin légitime, mais tu n'arrives pas à accomplir ce besoin, et tu es frustré. Quand tu sais que cette chose, c'est pour toi, c'est ton droit, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Ça, c'est la frustration. Et Dieu n'est pas un Dieu de frustration. Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pour le projet de paix et non de malheur. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Pas pour que tu vives dans la frustration. Alléluia. Mon souhait le plus fort, c'est que, au travers de cet enseignement, si tu es quelqu'un de frustré, que la frustration disparaisse de ta vie, afin que tu t'épanouisses comme un aigle, dans le nom de Jésus. Vous savez, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1, et puis Apocalypse chapitre 4, vous verrez que le prophète Ézéchiel a eu une vision où il a vu le trône de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et je vais prendre Apocalypse chapitre 4. C'est pratiquement la même chose que dans Ézéchiel chapitre 1. Apocalypse chapitre 4 et 5. Du trône sortent des éclairs, des voix. Il s'agit du trône de Dieu. Et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième, être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième, être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Alors, ces quatre images que Ézéchiel a vues dans Ézéchiel chapitre 1 correspondent aux quatre évangiles. Amen. Parce que l'évangile de Matthieu présente Jésus comme un lion, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'évangile de Matthieu commence avec la généalogie. Parce que quand on parle en termes royaux, on parle toujours de généalogie. Amen. Donc le lion, c'est Matthieu, l'évangile de Matthieu. Ensuite, l'évangile de Marc nous présente Jésus comme le bœuf ou le veau. Le bœuf ou le veau, surtout le bœuf, c'est un animal qui travaille beaucoup. Amen. C'est un animal qui travaille. Nous voyons là Jésus comme le serviteur. Celui qui n'est pas seulement le serviteur de Dieu, mais ton serviteur aussi, c'est-à-dire le serviteur des hommes. Amen. Ça, c'est l'image du bœuf ou du veau. Ensuite, nous voyons que Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme. L'homme. Nous voyons là Jésus comme un leader, un compagnon, un ami fidèle, un homme comme toi et moi, qui a de l'amour, qui marche, qui a des sentiments, hein, comme un homme. Et enfin, nous avons l'évangile de Jean. Et Jean, son évangile, c'est l'image de l'aigle. Parce que Jean présente Jésus comme Dieu. Alléluia. Et l'aigle est le symbole de la divinité. Amen. Donc, au travers des quatre évangiles, nous voyons la révélation de la gloire du trône de Dieu que Dieu a bien voulu montrer à son prophète Ézéchiel. Et chaque animal qu'il a vu correspond aux quatre évangiles. Et toutes ces faces, toutes ces images sont symboliques de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le livre d'Ésaïe, puisque notre source, c'est autour d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe lui-même est un prophète extraordinaire parce qu'il a écrit 66 chapitres. Amen. Et Ésaïe, à lui tout seul, constitue toute la Bible. Parce que la Bible elle-même est composée de 66 livres. Et sur les 66 livres, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et de la même manière, quand vous étudiez Ésaïe, dans Ésaïe, vous avez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament d'Ésaïe, le Nouveau Testament commence dans Ésaïe 40. Parce que quand vous lisez Ésaïe 40, à son verset 3, la Bible dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. » C'est exactement comme ça que commence l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 3, ça parle de Jean-Baptiste. Donc, Ésaïe a une partie qui correspond à l'Ancien Testament et une partie qui correspond au Nouveau Testament. Et vous allez vous demander pourquoi cela. C'est très important. Parce que c'est dans le chapitre qui symbolise le Nouveau Testament d'Ésaïe que Ésaïe a parlé des aigles. Certains ont vu où je veux en venir, d'autres vont le voir tout à l'heure. Ésaïe a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Alléluia. Le Nouveau Testament dit, celui qui en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Ça veut dire quand tu acceptes Jésus, tu passes de l'identité de poulet à l'identité. Ah, je vois que vous me suivez. Amen. Naturellement, ne change pas de nature. Parce que tu es comme on t'a créé. Mais Et c'est à ça que je voulais attirer, sur ça que je voulais attirer votre attention. Vous devez savoir que vous n'êtes plus la même personne à partir du jour où vous avez reçu Jésus. À partir du jour où vous avez reçu Jésus, vous marchez peut-être toujours comme des poulets, vous ressemblez toujours à des poulets, vous agissez comme des poulets, mais Dieu m'a envoyé pour vous dire aujourd'hui, vous ressemblez peut-être à des poulets, mais vous êtes... Maintenant, l'aigle qui est en toi ne va pas se développer si toi, tu n'acceptes pas d'abord que tu es. Tu crois trop ce que les hommes te disent. Tu ne crois pas ce que Dieu te dit. Mais Dieu te dit, si tu m'as reçu, si tu m'as... Celui qui est en Christ est une...
Nouvelle créature.
Nouvelle créature veut dire recréer. Est-ce que vous suivez?
Amen.
C'est pas que la créature a changé. Parce que tu peux changer en gardant les traces du passé. Non, on t'a recréé. La version en grec dit, celui qui est en Christ est une espèce qui n'a jamais existé. C'est une nouvelle race. Pourquoi une espèce qui n'a jamais existé? Parce que quand tu es en Christ, Dieu habite en toi. C'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, on rencontre des hommes en qui Dieu habite. On n'a jamais vu ça avant. Même les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas naître de nouveau. L'Esprit de Dieu venait sur eux, les utilisait, les quittait. Pourquoi ils ne pouvaient pas naître de nouveau? Parce que le prix du péché n'avait pas encore été payé. Il fallait que Jésus meure d'abord et ressuscite, pour que ceux qui croient en lui changent de nature. Donc, nous sommes plus puissants que Abraham. Parce que Dieu n'habitait pas dans Abraham. Nous sommes plus puissants que David. Parce que Dieu n'habitait pas dans David. Le livre des Hébreux dit, tous ces gens-là, ils ont désiré vivre notre temps. Ils ont vu ce temps de loin, mais ils ne l'ont pas vécu. Dieu n'a jamais habité en eux. Mais toi, Dieu habite en toi. Si Dieu habite en toi, ça veut dire que la nature humaine et la nature divine sont devenues une seule nature. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose, la capacité de Dieu en toi. Tu n'es plus une simple personne. Tu es un champion. Tu es quelqu'un de surnaturel,
Amen.
Quelqu'un d'extraordinaire.
Amen.
Mais toi-même, tu dois d'abord le réaliser.
Amen.
Toi-même, tu dois d'abord le savoir. Tu dois avoir cette assise-là. Tu dois savoir connaître qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, on va toujours voler tes droits et tu ne peux pas réclamer tes droits si tu ne connais pas tes droits. La seule personne qui reconnaît ses droits, c'est cette personne qui connaît ses droits. Si tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas les réclamer. Alléluia.
Amen.
Donc, tu n'es pas n'importe qui. Dieu habite en toi. La Bible dit, à partir du chapitre d'Ésaïe qui inaugure le Nouveau Testament, c'est-à-dire le testament de la nouvelle création, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Se confient en l'Éternel. En anglais, le verbe, c'est le verbe wait. C'est-à-dire ceux qui attendent le Seigneur ou qui attendent dans le Seigneur. Ah, j'aime bien décortiquer la parole en
lui
et voir ce qu'il y a. Vous savez, il faut aller jusqu'à la moelle des os. Là, des gens mangent l'os et puis ils jettent comme ça. Il faut reprendre, casser quelque chose dedans. Alléluia.
Amen.
Ceux qui se confient en l'Éternel, ça veut dire ceux qui ont la foi. Mais la foi dont on parle, là, c'est pas la foi simple et puis tu as mal à la tête et tu vas prendre des médicaments croyant que Dieu n'existe pas. Non, c'est pas cette foi-là. La foi, si je peux comparer cette foi à la foi, j'aime la foi de Job. a tout perdu. Sa femme a dit, maudit, tu es mère. Elle a dit, non. Ah, je sais que Dieu va me restaurer, même si je meurs. Ah, Dieu a dit, non, tu n'as pas besoin de mourir pour ça. Non. Tu as tellement la foi en moi que c'est pendant que... Oh! Je parle de la foi, c'est-à-dire que c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, puis ça s'arrête là. C'est pas la foi de ceux qui, quand ça chauffe, retournent à l'adresse du féticheur d'hier. Non. Ça, c'est pas la foi. Parce que Dieu va te tester. Hein? Dieu va te mettre dans le feu pour savoir si il est vraiment ton Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont la, ceux qui croient à, vous savez, voilà. Romains 4, la Bible dit d'Abraham, Abraham, allons rapidement. Voilà, c'est ça qui symbolise la foi dont je parle. C'est-à-dire, c'est la foi sans faille. La foi dans laquelle il n'y a aucune ouverture. La Bible dit, Romains 4, verset 18, espérant, contre toute espérance, il crut, non, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans. Il ne douta point par incrédulité, voilà, verset 21, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu lui a promis, Dieu va l'accomplir. La Bible n'a pas dit ayant la conviction. Parce que s'il avait la conviction qu'il avait pouvait se déstabiliser. Non, la Bible a dit, il avait comment? Ah, le mot pleine là, est plus important que la conviction elle-même. Parce que c'est-à-dire la conviction qu'il avait, personne ne peut lui dire que ce que Dieu lui a promis n'arrivera pas. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Il avait la pleine conviction. C'est ça. Je parle de la foi par rapport à être pleinement convaincu que Dieu est vivant, que Dieu est avec toi, que Dieu fera ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est ceux qui mettent leur cœur, voilà, dans l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et le verbe « wait », comme je dis en hébreu, est traduit par un mot, le mot « kava ». Le mot « kava » signifie, je crois que le Saint-Esprit va m'aider à pouvoir bien traduire le mot « kava » qui correspond à « se confier en l'Éternel ». C'est-à-dire, il s'agit de lier deux choses ensemble, mais c'est les lier en les entremêlant. Vous voyez l'image? C'est comme si je prenais deux brindilles et puis je les entremêle, je les noue entre elles. Voyez, vous prenez deux choses et puis vous les nouez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les entremêlez. Hein? Croire en l'Éternel en hébreu signifie lier ensemble en entremêlant les deux choses. Ça veut dire, celui qui croit en l'Éternel, ça veut dire celui qui se lie à l'Éternel. C'est-à-dire, la foi que tu as en Dieu fait que toi et Dieu, vous êtes
attachés.
Ah, j'aime ça. Ça veut dire, quand tu dis je crois en Dieu, spirituellement, dès que tu dis je crois en Dieu, Dieu est avec toi. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, la situation ne change pas, mais Dieu est avec toi. Est-ce que vous me suivez?
Amen.
C'est comme quelqu'un, vous connaissez, nous connaissons toute cette histoire, quelqu'un qui avait l'habitude de marcher avec Dieu. Et il pouvait voir les traces de Dieu dans le sable. Quand il marchait, il voyait Dieu à côté. Il voyait les pas, oui, je ne suis pas seul, quelqu'un à côté de moi. Et quand ça a commencé à chauffer dans sa vie, que toutes les persécutions sont arrivées, les pas qui étaient à côté de lui ont disparu. Il a dit, Dieu m'a abandonné. Mais par la grâce de Dieu, il s'en est sorti quand même. Et après, il a commencé à dire à Dieu, comment se fait-il que quand ça chauffait pour moi, tu m'as laissé tomber? Et Dieu a dit, je ne t'ai pas laissé tomber parce que les pas que tu voyais, ce n'étaient pas tes pas, c'était mes pas car je te portais dans mes bras.
Amen.
Ah, dis à ton voisin qui a dit que tu es parti. Je n'ai pas parti. Dieu dit, je ne suis pas parti, je te porte dans mes bras. C'est un témoignage que tu sois encore vivant malgré tout ce qui t'arrive. C'est un témoignage que tu vives encore malgré ce qui t'arrive. C'est un témoignage, tu marches, tu vis encore, tu dors, tu rêves. C'est un témoignage. Parce que je te porte dans mes bras. Celui qui croit en l'Éternel, qui met sa confiance, qui est lié à l'Éternel, cette personne commence à prendre son vol comme les aigles. Et cette personne court et ne se lasse point, marche et ne se fatigue point. Suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Ne ratez pas ça, parce que si vous ratez ça, vous avez tout raté. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Une autre traduction dit, ceux qui se confient en l'Éternel reçoivent la force de l'Éternel. Se confier en l'Éternel signifie, c'est un échange. L'Éternel prend ta faiblesse et il te donne sa force. Ah, y a des choses qu'on lit dans la Bible et puis on court dessus. Il y a un frère chaque semaine, chaque jour, il me réveille même. Ah, pasteur, il faut que je prenne tel message. Pasteur, je dois prendre tel message. Tous les jours. Et un jour, je lui ai dit, hé, la parole de Dieu, il faut bien manger ça.
Amen.
Il ne faut pas courir avec le message. Non. Prends un message, tu peux vivre là-dessus pendant un mois. Pourquoi tu es pressé comme ça? Parfois, on veut tout avoir, on est pressé, puis on rate tout. Moi, je ne suis jamais pressé. Je peux rester sur un seul message pendant je ne sais pas combien de temps. Parce que Dieu parle, il met des trésors dans chaque parole. Quand la Bible dit « ceux qui se confient en l'Éternel », ça veut dire, quand tu te confies en l'Éternel, tu reçois la force de l'Éternel, l'Éternel prend ta faiblesse. Ça veut dire, en te confiant en l'Éternel, tu es lié en t'entremêlant avec Dieu. Alléluia. Et parce que tu es lié en t'entremêlant avec Dieu, ça veut dire, tu as une nouvelle nature en toi. Maintenant, ça fait que tu passes du niveau du poulet au niveau de l'aigle. Tu ne changes pas de nature sans Jésus. Mais avec Jésus, tu changes de nature. Et maintenant, le passage dit que cette personne prend son vol comme l'aigle, il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Soyons sérieux, hein. Soyons sérieux. Logiquement et normalement, avant de voler, tu dois marcher, ensuite courir et voler. Ne ratez pas ça. Mais si tu es en Christ, tu voles avant de courir. Dis à ton voisin, c'est contre nature. Vous trouvez ça naturel? Oh, vous êtes trop calme. Tu ne peux pas voler avant de courir et ensuite marcher. Non, tu marches d'abord, ensuite tu cours et puis bon. Mais si tu es en l'Éternel, l'Éternel va renverser l'ordre naturel des choses. Il y aura des choses que tu vas commencer à faire. Les gens vont dire, ah, comment tu as fait ça? Et tu vas répondre, là où j'étais avant, je ne suis plus là-bas. Alléluia.
Amen.
C'est ça que j'aime chez Dieu. Et quand tu es avec Dieu, tu dois faire toujours des choses et les gens doivent toujours te demander comment tu as fait. Pourquoi? Parce que tu prends d'abord ton vol avant de courir et avant de marcher, pendant que les autres marchent avant de courir et n'arrivent même pas à voler. Alléluia.
Amen.
Ça veut dire, celui qui met sa confiance en l'Éternel rentre dans un domaine surnaturel. Tu ne peux pas être en lui, avec lui, avoir sa nature et continuer à vivre des choses naturelles. Non. Dès que tu as Jésus, dès que tu es né de nouveau, dès que la nature divine s'est mélangée à ta nature humaine, il y a des choses qui t'arrivaient avant qui ne doivent plus t'arriver maintenant.
Amen.
Moi, c'est comme ça que je comprends l'évangile. Pour moi, c'est comme ça l'évangile. Et tu dois te dire, à partir d'aujourd'hui, dis à ton voisin,
à partir d'aujourd'hui,
je ne serai plus un poulet.
À partir d'aujourd'hui,
je deviens un aigle.
Je vole.
Avant de courir, et je cours avant de marcher. Ça veut dire, là où on chasse les gens disant il n'y a pas de boulot, quand toi tu vas arriver, on va te dire il y a du boulot. Tout ce qui arrive aux autres, c'est de mauvais, c'est le contraire qui va t'arriver, toi. Parce que tu vas renverser l'ordre naturel des choses. Vous savez, on peut mettre 3 jours à prêcher juste sur mettre sa confiance en l'Éternel. Parce que c'est quelque chose, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne lisez pas la Bible comme un roman. La Bible n'est pas un roman. Chaque mot, tu peux même prêcher sur les virgules et les points virgules. Vous ne me croyez pas. Un jour, on va essayer ça. On va prêcher sur les virgules, les points virgules, les points. Vous expliquez pourquoi l'Esprit a mis une virgule ici, un point virgule là et un point ici. Dans la Bible, il n'y a rien qui est là par hasard. Tout est là pour une raison. Le pasteur va prêcher sur les virgules. Alléluia.
Amen.
Non, c'est une façon de vous dire, ne sois pas pressé. C'est pour ça que je dis toujours, ça ne sert à rien de connaître toute la Bible et de ne rien faire avec. Hein? Il vaut mieux connaître un seul verset dans toute la Bible et l'appliquer. Parce que tu as creusé et tu connais bien ce verset. Et tu vas trouver ta délivrance dans ce verset. Alléluia.
Amen.
Donc, en tant qu'aigle, je pense que demain, nous allons rentrer dans la profondeur des choses. Aujourd'hui, on pose simplement les fondations. Mais en tant qu'aigle, les aigles ne naissent pas sur la terre. Les aigles naissent dans les hauteurs. Parce que l'aigle n'est pas comme un poulet qui fait son nid par terre et mange par terre. L'aigle va faire son nid au creux de la montagne, dans les airs. Quand l'aiglon, ces petits naissent, ils naissent automatiquement dans les airs. Dis à ton voisin, je suis plus céleste que terrestre.
Je suis plus céleste que terrestre.
Ah. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2, nous sommes assis où? Dans les lieux célestes. Quand tu es né de nouveau, ta position, tu n'as plus. Ah, dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais là? Ah, oh, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais là? L'aigle n'a pas de terre, n'est pas sûr, n'a rien à voir avec la terre. Et quand ces petits naissent en haut. C'est-à-dire que la première chose qu'ils voient, certaines recherches disent que les aiglons naissent la bouche ouverte et en fixant le soleil. Ah, je vois que le frère est d'accord avec moi. Ah, lui, il a déjà dépassé l'état de poulet. Hein, que Dieu bénisse le frère. C'est un aigle. Alléluia. Et l'aigle est le seul oiseau qui peut regarder le soleil. Vous savez, il y a un oiseau qui est comme l'aigle. Comme le diable aime imiter souvent Dieu, on l'appelle le condor. Quand l'aigle vole, le condor suit l'aigle. Et arrivé à un niveau, l'aigle lève la tête, regarde le soleil et va plus haut encore. Mais le condor ne peut pas regarder le soleil, il est obligé de descendre. Le diable est obligé de... Nous allons voir que le soleil, quelle est l'image du soleil dans la parole de Dieu. Les aiglons naissent en regardant le soleil. Alléluia. Dans les hauteurs. Et je vais vous dire quelque chose. On va clôturer, on va prier. Demain, on va continuer. Est-ce que vous avez reçu un peu quand même aujourd'hui? Pas beaucoup, juste un peu. Pour ceux qui sont venus en retard, c'est pas grave, vous allez vous rattraper. Amen.
Amen.
Que Dieu vous bénisse d'être venu. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Quand l'aigle femelle veut s'accoupler, vous savez ce qu'elle fait? Ah, c'est très intéressant. Elle va chercher d'abord une brindille. Hein? Elle va prendre la brindille et puis elle va monter dans les hauteurs. Et l'aigle mâle va la suivre. Et arrivé à un niveau, elle va lâcher la brindille. Et l'aigle mâle va descendre, rattraper la brindille avant que la brindille ne touche le sol. Alléluia.
Amen.
Ensuite, elle ira prendre quelque chose qui est un peu plus gros que la brindille. Elle va monter dans les airs. L'autre va, le mâle va le suivre et puis elle va lâcher ça. Et le mâle va voler, rattraper ça avant que ça ne touche le sol. Et ça peut durer plus de 4 heures de temps. Alléluia. Quand je lisais ça, j'ai rigolé parce que je me suis dit, je vais demander à l'assemblée combien de sœurs lancent des brindilles avant de choisir le frère. Alléluia. Alléluia. L'aigle est étonnant, hein? Vous savez pourquoi elle fait ça? Ah. Hein, pardon? Je vais vous dire pourquoi elle fait ça. Mais c'est étonnant, c'est un oiseau. Je ne sais pas si je peux utiliser le verbe réfléchir. Mais c'est un oiseau. Elle va en l'air, elle lance quelque chose, le bâton, et puis le mâle doit prouver. Quand j'étais petit au pays, il y avait une chanson congolaise, le titre c'était Mon mari est capable. Le mâle doit prouver qu'il est capable.
Amen.
Il ne suffit pas d'être mâle, il faut être homme. Non, vous n'avez pas compris. Il ne suffit pas d'être mâle, il faut être
homme.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir ce qu'il faut avoir pour être un homme, il faut être vraiment un homme. Donc l'oiseau teste le mâle, la femelle teste le mâle avant de s'accoupler. Alors à combien plus forte raison ma sœur doit tester le frère avant le mariage? Surtout la sœur qui va chercher le frère dans le monde en disant je vais le changer. Tu es très forte, hein? Tu es plus fort que Jésus parce que c'est Jésus qui change, hein? Parce que lui peut te changer. Non, mais ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, mais comment un oiseau qui ne médite pas peut tester le mal avant de le choisir? Vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont des petits, à un moment donné, c'est l'aigle femelle qui chasse les petits du nid. C'est pas l'aigle mâle. La Bible dit, l'aigle femelle, à un moment donné, va venir chercher les petits. D'abord, pour faire le nid, l'aigle prend des ailes, des plumes, prend des herbes, prend même un truc pour faire une sorte de tapis dans le nid. Et dans le nid, l'aigle lui-même met aussi des épines. Quelqu'un va comprendre pourquoi Dieu a mis des épines dans son... Et à un moment donné, quand l'aigle femelle voit que les petits sont mûrs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les tapis, les plumes, les herbes, tout ce qui fait le confort. Elle va prendre les petits dans le nid pour les sortir. Et comme les petits auront peur de sortir parce que c'est la première fois, ils vont vouloir retourner dans le nid, les épines vont les piquer, ils vont revenir sur les ailes de maman. Et maintenant, maman va les prendre pour les emmener très haut et puis va les lâcher. Et les petits vont, et essayer de se débattre, mais ils ne vont pas arriver à voler la première fois. Ils vont commencer à chuter, à chuter, à chuter. Et maintenant, avant qu'ils ne touchent le sol, c'est le mal qui doit descendre pour les porter sur ses ailes. C'est pour ça qu'elle teste le mal avant de l'épouser pour savoir s'il est capable de porter. Ah! S'il est capable de porter les petits. Et quand il passe le test, alors c'est la lune de miel. Une soeur doit dire à son frère, tu dois passer le test. Alléluia. Amen. Mais c'est étrange, Dieu a mis des mystères dans la nature. Hein. C'est un oiseau hein, qui résonne comme ça. C'est même pas une personne. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu l'aigle. Pendant que quelqu'un est en train de chuter maintenant, que tu crois que tu es tout seul, que tout le monde t'a abandonné, même que Dieu t'a abandonné, Dieu dit tu ne toucheras pas le sol parce qu'au dernier moment, je viendrai te reprendre sur les ailes. Parce que je suis le Dieu de la dernière minute. Vous savez, Job avait la révélation du Dieu de la dernière minute. C'est pour ça qu'il a dit, même si je meurs, Dieu va me justifier. C'est le Dieu de la dernière minute. Vous savez, Dieu est souvent, j'aime le Dieu de la dernière minute. C'est au moment où tu crois que tout est fini. Tu crois que rien ne va plus changer. Que oui, Dieu a fait ceci. Les hommes t'ont fait ceci. Mais les chrétiens se plaignent beaucoup pendant que Dieu est en train de les tester comme l'aigle femelle teste l'aigle mâle. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne va pas te donner si tu n'es pas mûr. Parce que si Dieu te les donne, tu vas abandonner Dieu. Amen. Tu vas aimer plus la bénédiction que la personne qui t'a béni. Mais Dieu veut que tu aimes plus la personne qui te bénit que la bénédiction. Donc il va te faire passer par des tests. Et tu auras l'impression comme l'aiglon, tu es en train de chuter. Mais dis à ton voisin, tu n'as pas encore touché le sol. Parce qu'avant de toucher le sol, Dieu viendra te chercher encore. On va s'arrêter là, Seigneur. Merci, nous allons nous lever. Il n'y a pas d'espérance. Vous ne voyez pas comment la situation peut changer. Si tu es dans une situation comme ça, tu peux me dire, je vais prier pour toi.
Ce soir encore, Jésus tend ses mains. Ce soir encore, Jésus t'appelle parce qu'il t'aime. Élève ta voix pour le bénir. Crie de joie ce soir pour ton Dieu. Crie ce soir de joie pour le Seigneur Jésus parce que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il nous aime. Oh Seigneur, je veux